La diplomatie iranienne a critiqué les États-Unis pour avoir utilisé les droits de l'homme comme un outil pour atteindre leurs objectifs. Législative libanaise, 41,04% le taux de participation, une bataille contre les États-Unis et Israël, selon Gebran Bassil. Et le Mali annonce son retrait de l'organisation régionale G5 Sahel. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, dans un discours devant un rassemblement d'organisations non gouvernementales iraniennes bénéficiant du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, dimanche 15 mai, a critiqué les États-Unis pour avoir utilisé les droits de l'homme comme un outil pour atteindre leurs objectifs, affirmant que le concept sublime avait été réduit à un jouet par Washington. En raison de l'approche adoptée par les centres de pouvoir dans le monde, la question des droits de l'homme est devenue un outil politique pour faire avancer les objectifs de ces centres, a regretté M. Khatibzadeh avant de décrire les États-Unis comme un État qui utilise les droits de l'homme comme un moyen de faire avancer ses objectifs dans sa boîte à outils de politique étrangère, ce qui a malheureusement conduit à une insignifiance du concept transcendant des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme du pouvoir judiciaire iranien a condamné l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, soulignant que le régime israélien doit être tenu responsable de ce crime par la communauté internationale. Le Conseil judiciaire des droits de l'homme a publié une déclaration sur la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, qui a récemment été martyrisée par les troupes du régime sioniste en Cisjordanie, soulignant que le régime sioniste doit être comparu devant la justice. Le communiqué note qu'Abu Akleh est l'un des 82 journalistes assassinés par le régime usurpateur au cours des 4 dernières décennies, alors que le régime sioniste intensifie ses crimes dans les terres occupées de Palestine. Selon Médecins sans frontières, 35 journalistes ont été tués en exerçant leur métier dans les territoires occupés palestiniens depuis 2000, dont Shirin Abu Akleh. 41,04% des Libanais ont voté ce 15 mai pour élire leur nouveau parlement, a indiqué le ministre libanais de l'Intérieur, Bassam Moulaoui. Étaient en lice 103 listes avec 718 candidats pour les 15 circonscriptions électorales pour élire 128 députés. Les forces de sécurité intérieure ont été déployées à l'extérieur et à l'intérieur des bureaux de vote afin d'assurer la sécurité des élections et des électeurs, tandis que l'armée libanaise a pris en charge la sécurité du voisinage des bureaux de vote. Le président libanais Michel Aoun, le premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement Nabih Berri ont déposé leur bulletin de vote tôt dans la matinée du dimanche dans leurs districts respectifs. M. Aoun a appelé les Libanais à voter en masse, affirmant que les citoyens ne peuvent pas rester impartiaux quand il s'agit des questions fondamentales liées au choix du système de gouvernance du pays. Les élections ont pour objectif de choisir un nouveau parlement pour un mandat de 4 ans avec la participation de 718 candidats, dont 118 femmes en lice pour 128 sièges. Le processus électoral se tient sous le contrôle de plusieurs organisations nationales et internationales, alors que l'on dénombre environ 3,9 millions d'électeurs éligibles, dont 225 000 expatriés qui ont voté la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur. Après avoir voté dans la deuxième circonscription de Beyrouth, le numéro 2 du Hezbollah, Sheikh Naïm Rassem, a déclaré: ces élections sont cruciales car elles nous transfèrent de la phase de l'effondrement à celle de la renaissance. Selon un décompte encore provisoire, le député du Hezbollah, Mohamed Raad, aurait obtenu le plus grand nombre de voix du scrutin 2022 en récoltant plus de 46 000 voix dans la circonscription 3 du sud du Liban. Lors de sa première apparition télévisée après le scrutin législatif, M. Gebran Bassil, le ministre libanais des Affaires étrangères, a déclaré que la bataille électorale au Liban était contre les États-Unis et Israël. L'argent qui a été dépensé lors des élections provenait d'un protagoniste régional bien connu, ce qui indique que la bataille se situe à ce niveau, a-t-il accusé, faisant allusion à l'Arabie saoudite, dont les ingérences de l'ambassadeur au Liban ont été très flagrantes durant les derniers jours qui ont précédé le scrutin pour soutenir les candidats des forces libanaises de Samir Jadja et ceux du PSP du leader druze Walid Jumblatt. Surtout que le boycott du chef du courant du futur Saad Hariri avait laissé un grand vide, notamment au sein de la communauté sunnite. Les élections se tiennent conformément à une loi proportionnelle adoptée en 2017 et en l'absence du principal leader sunnite Saad Hariri, qui les boycotte. Selon le correspondant d'Al-Manar, des éléments des machines de vote des forces libanaises ont semé la panique dans certaines régions pour intimider les électeurs, surtout ceux du courant patriotique libre, et empêcher le bon déroulement du scrutin. Des exactions ont été signalées dans la région de Chekra contre des partisans du CPL et des menaces ont été proférées en direct sur la télévision contre la vie de son chef, Gebran Bassil. Le président finlandais et le comité gouvernemental en charge de la politique étrangère ont pris dimanche 15 mai la décision officielle d'entamer le processus de demande d'adhésion du pays à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le 15 mai, le président de la République et le comité ministériel en charge de la politique étrangère et de sécurité du gouvernement ont finalisé un rapport sur l'accession de la Finlande à l'OTAN. Ce rapport sera présenté à la session plénière du gouvernement ce dimanche et après son approbation, il sera soumis au Parlement, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec la première ministre Sanna Marin, le président Sauli Niinistö a décrit ce jour comme historique alors qu'une nouvelle ère s'ouvre. Selon lui, la sécurité de la Finlande n'est pas un jeu à somme nulle, elle ne vise personne. Saluant également ce jour historique, Mme Marin a ajouté qu'après l'approbation du Parlement, le gouvernement proposera au président d'envoyer la demande d'adhésion à l'OTAN. Or, la Russie a averti qu'elle renforcerait sa frontière avec la Finlande si les armes de frappe de l'OTAN y sont déployées, a averti dimanche Viktor Bondarev, président du comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération. Si l'OTAN déploie des armes offensives, des armes de frappe en Finlande, nous renforcerons notre frontière et y augmenterons la présence des troupes russes, a-t-il déclaré sur Telegram, qualifiant l'intention de la Finlande de rejoindre l'OTAN de perturbante au sens géopolitique. Le Mali annonce son retrait de l'organisation régionale G5 Sahel. Le Mali s'isole encore un peu plus. Bamako a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-extrémisme pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, indique son communiqué. Le G5 Sahel avait été créé en 2014 et sa force anti-extrémiste lancée en 2017. Le Mali fait depuis le 9 janvier l'objet de sanctions économiques et diplomatiques des États ouest-africains qui reprochent à la junte de vouloir se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Après deux putschs en août 2020, puis en mai 2021. Cette nouvelle décision survient après l'annonce, début mai par la junte, de la fin du traité de coopération de 2014 avec la France, ainsi que des accords de 2013 et 2020 fixant le cadre juridique de la présence de la force Barkhane et du regroupement de forces spéciales européennes Takuba, initié par la France. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'opérations de groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Daesh, ainsi qu'à des violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Ces violences, parties du Nord en 2012, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Arabie Émirat. Coup d'État croisé. Est-ce une simple coïncidence ou s'agit-il d'un ménage dans le camp des alliés des États-Unis au Moyen-Orient? L'émir d'Abu Dhabi est président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan étant récemment décédé pour être remplacé par Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Devrait-on s'attendre à un pareil scénario en Arabie Saoudite avec Mohammed bin Salman, comme prince héritier qui a déjà montré un grand talent de servir les intérêts des Américains et Israéliens? À quoi ressemblera la donne au Moyen-Orient où les deux architectes de la guerre du Yémen ont déjà beaucoup de mal à maîtriser la situation? Sans surprise, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, a été déjà considéré comme le dirigeant de facto des Émirats, car il était en charge des affaires du pays, même du vivant de son demi-frère Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, mais la mort de ce dernier va étendre ses pouvoirs. Selon les médias émiratis, la cause du décès de Khalifa Ben Zayed, 73 ans, était un accident vasculaire cérébral. Bien sûr, il souffrait de cette complication depuis 2014 et n'apparaissait pas en public. Il convient de mentionner qu'il existe des points suspects concernant l'annonce du décès, l'organisation de la cérémonie funéraire et sa couverture médiatique. En fait, à l'instar du gouvernement de Salman bin Abdelaziz en Arabie Saoudite, où l'administration des affaires était pratiquement confiée au prince héritier Mohammed bin Salman, un tel scénario a été mis en œuvre aux Émirats au cours de ces années et Mohammed Ben Zayed était considéré comme le dirigeant du pays. En fait, le rôle du Khalifa récemment décédé des Émirats et du roi d'Arabie Saoudite étant désormais malade et hospitalisé était plutôt protocolaire et dans la pratique, les deux pays étaient gouvernés par leur prince héritier. Bien que Ben Salman et Ben Zayed aient pratiquement gouverné leur pays durant ces années en rompant les tâches définies pour le poste de prince héritier, la mort de Khalifa Ben Zayed et l'éventuelle mort du roi Salman pourraient considérablement étendre les pouvoirs des deux princes héritiers dont les effets se feront sentir non seulement aux Émirats et en Arabie Saoudite, mais encore dans toute la région. Au cours de ces dernières années, les Émirats Arabes Unis ont connu les plus grands développements dans le domaine de la politique étrangère du pays. Le pays était dans le camp de l'opposition au gouvernement de Bachar al-Assad au plus fort de la crise syrienne et a été accusé par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et d'avoir porté le soutien aux putschistes lors du coup d'État en Turquie. Lorsque l'Arabie Saoudite a coupé ses liens politiques avec l'Iran en 2015, elle a réduit ses relations avec l'Iran et dans le cas de la guerre au Yémen, elle s'est placée du côté saoudien. Concernant les changements fondamentaux de la politique étrangère des Émirats, ces dernières années, ce pays a cherché à se présenter comme un pays pragmatique, comme un acteur qui interagit avec toutes les parties de la région, allant de l'axe de la résistance à Tel Aviv, dans le domaine du développement économique et sécuritaire. À cet égard, après avoir conclu des accords politiques et économiques avec les responsables du régime sioniste, ce pays a tenté de se libérer de la pression de l'opinion publique du monde islamique en dialoguant avec l'Iran et la Syrie comme les pays de première ligne du front de la résistance. Prolonger le cessez-le-feu avec le mouvement yéménite Ansar Allah, faire retirer les Émirats de la guerre au Yémen et mettre fin au siège politique et économique du Qatar font partie des politiques que Ben Zayed a poursuivies ces derniers temps et devrait les mettre en œuvre plus vigoureusement lorsqu'il est le président des Émirats. Une autre nouvelle politique poursuivie par Mohammed Ben Zayed en tant que nouveau chef des Émirats Arabes Unis est de s'éloigner progressivement de l'Occident et des États-Unis et d'essayer de former de nouvelles coalitions dans la région, comme cela a été évident lors de la crise ukrainienne. En fait, en déclarant leur neutralité dans cette crise, les Émirats se sont pratiquement rangés du côté russe et contre les États-Unis. C'est la même approche adoptée par Mohammed Ben Salman, après quoi les relations saoudo-américaines sont entrées dans une phase de tension sans précédent.